La barge russe, tous les jours, à 14h, avec Johnny Tuvebeck. Barge russe, 10:37, Wagner, Nietzsche at Bayreuth.
Wagner,
Tristan et Isot. Donc avec le professeur Schmilbli, on a parlé de ça l'autre jour, que je voulais faire un truc sur Wagner et le Mood Schwartz. Et en fait, j'ai envie de le faire tout seul. Mais je vais me servir des considérations intempestives, le tome 4, l'ouvrage qu'il avait trouvé. Qui s'appelle cette considération Richard Wagner à Bayreuth. Un événement, pour être grand, doit réunir deux conditions. La grandeur de ses auteurs, la grandeur de ceux qui y sont associés. Aucun événement n'est grand en soi, pas même les constellations qui s'éteignent, le désastre des nations, la naissance des grands États, les guerres menées avec des armées puissantes au prix de pertes immenses. Souvent, le souffle de l'histoire les disperse comme de légers flocons. Mais il arrive aussi qu'un homme fort frappe un coup qui vient s'amortir sur une roche dure. Un écho bref et strident, puis tout est fini. L'histoire même n'a presque rien à dire de ces événements, en quelque sorte tronqués. Aussi, lorsque s'annonce un événement, faut-il se demander avec inquiétude si ceux qui vont le vivre s'en montreront dignes. C'est sur ce rapport entre l'acte et l'accueil qui lui sera fait que l'on compte et que l'on s'oriente toujours pour agir, dans les plus petites comme dans les plus grandes occasions. Et quand on a un don à faire, on est bien obligé de veiller à ce que les bénéficiaires sachent apprécier l'esprit dans lequel il leur est fait. C'est pourquoi l'acte isolé d'un homme, fût-il grand, est sans grandeur si c'est un acte bref, sans résonance et stérile. Car en l'accomplissant, il a manqué à son auteur d'en sentir juste, profondément l'immédiate nécessité. Il n'a pas visé assez juste. Il n'a pas discerné et choisi son moment avec assez de précision. Il s'est fié au hasard alors que la grandeur de l'acte et la juste appréciation de son opportunité sont strictement solidaires. Donc là, on peut voir ce que Schmilbli, enfin Nietzsche, appelle la non-historicité. Et quand il dit tronqué, c'est par rapport au court-circuit. L'histoire même n'a presque rien à dire de ces événements en quelque sorte tronqués. Paf, un court-circuit arrive et là, une création se naît, un instant, un phénomène inouï prend naissance, se crée. Et là, pour ceci, comme j'ai pu le dire dans la barge russe passée, il faut être actif dans sa tête. Il ne faut pas être passif à regarder des écrans, par exemple. Nous laisserons donc à leurs soucis et à leurs scrupules ceux qui ont des doutes quant au sens de l'opportunité chez Wagner. Nous les laisserons se demander si ce qui se passe à Bayreuth arrive à point nommé et répond à une nécessité. Pour nous qui avons plus de confiance, il nous semble que Wagner a foi dans la grandeur de son acte, autant que dans la grandeur de ceux auxquels il est adressé. Thank you. Car oui, Bayreuth est une ville dans laquelle Richard Wagner a créé un festival afin de se représenter ses 10 grandes œuvres. 1876-72. Ah bah, c'est écrit. C'est de quoi peuvent être fiers tous ceux nombreux ou clairsemés qui sont l'objet de cette croyance, car Wagner nous l'a dit dans son discours d'inauguration du 22 mai 1872. Cette croyance ne s'adresse pas au monde contemporain dans son ensemble, ni même à la totalité du peuple allemand, tel qu'il est actuellement constitué. Et aucun de nous ne pourrait le contredire ou le consoler sur ce point. « Je n'avais que vous, » dit Richard Wagner. Vous, les amis de mon art, de ma forme particulière d'action et de création, et je voulais trouver des sympathisants pour mes projets. Je ne pouvais faire autrement que de demander votre concours pour mon œuvre afin de me permettre de la présenter pure et intacte à ceux qui témoignent pour mon art d'une inclination sincère, bien qu'il n'ait pu encore leur être présenté que sous une forme impure et défigurée. Richard Wagner a projeté sur le présent et le passé un faisceau lumineux de connaissances assez puissant pour éclairer un périmètre d'une ampleur peu commune. C'est pourquoi il est un simplificateur de l'univers. Car la simplification consiste toujours en ce que le regard du voyant, dominant la prodigieuse profusion et le prodigieux désordre d'un chaos apparent, réduit à l'unité ce qui semblait jusqu'alors incohérent et dispersé. Merci Nietzsche. Wagner y est parvenu en découvrant une relation entre deux choses qui semblent vivre étrangères et indifférentes l'une à l'autre dans deux sphères isolées, la musique et la vie. Et aussi la musique et le drame. Non qu'il ait inventé ou créé ces relations, elles existent et se trouvent littéralement sous nos pas. Car un grand problème ressemble toujours à la pierre précieuse que les multitudes foulent aux pieds jusqu'au jour où quelqu'un la ramasse. Que signifie, se demande Wagner, qu'un art tel que la musique a surgi avec cette puissance incomparable dans la vie de l'homme moderne ? Point n'est besoin de mépriser cette vie moderne pour voir qu'il y a un problème. Bien au contraire, quand on évalue les forces puissantes qui gouvernent cette vie, et que l'on évoque l'image de l'individu violemment avide de s'élever et qui lutte pour acquérir la liberté consciente et l'indépendance de la pensée, c'est alors surtout que l'apparition de la musique en ce monde semble une énigme. Comment ne pas se dire qu'à une époque pareille, la musique n'aurait pas dû naître ? Mais comment alors en expliquer l'existence ? Est-ce un hasard ? Assurément, l'apparition d'un grand artiste pourrait être un fruit du hasard. Mais une suite de grands artistes tels que la présente l'histoire de la musique moderne, phénomène qui n'a qu'une fois son analogue à l'époque des Grecs, donne à penser d'ici n'est pas un hasard qui règne, mais une nécessité. Cette nécessité, voilà justement le problème auquel Wagner apporte une réponse. Il a le premier découvert un mal répandu chez tous les peuples, dans toute l'étendue des pays civilisés. Partout, le langage est atteint d'une maladie. Cette horrible maladie pèse sur toute l'évolution de l'humanité, afin de saisir ce qui est le plus opposé au sentiment, c'est-à-dire la pensée. Le langage a dû gravir les échelons les plus élevés qui soient accessibles, et s'éloigner de plus en plus de la puissante émotion qu'il était à l'origine capable d'exprimer sans effort. Il s'est épuisé dans cet effort démesuré au cours de la brève période de la civilisation moderne. De telle sorte qu'il ne peut plus remplir le rôle pour lequel il est fait et qui consiste à permettre aux hommes souffrants de s'entendre au sujet des nécessités les plus élémentaires de la vie. L'homme, dans sa détresse, n'arrive plus à se faire comprendre ni à communiquer vraiment avec autrui par le moyen du langage. Dans cet état dont il a obscurément conscience, le langage est devenu une puissance autonome qui étreint les hommes de ses bras, de fantômes et les pousse où ils ne veulent point aller. Nietzsche parlait à l'instant sur Richard Wagner de la musique et qu'on n'entend pas forcément ce qu'elle signifie, ce qu'elle veut passer comme message. Et ça me fait penser à Antepop d'Helmut Schwartz. Antepop. Et il avait écrit un morceau, La volonté de puissance, que je vais vous passer d'ailleurs. Pop qui est un amalgame de sons, une superposition de sons, pour dire le fond de sa pensée, c'est que tout le monde parle et personne n'écoute. Bien sûr, il y a des exceptions, tout ça, mais le monde est, aujourd'hui est ainsi, et Nietzsche disait un peu la même chose. Il me disait ça. On peut admettre, je reprends Nietzsche qui parle de Wagner dans Considération intempestive, Wagner à Bayreuth. On peut admettre, Bayreuth est une ville allemande, je l'ai dit, ouais. On peut admettre que c'est là une des réponses que Wagner apporte au problème de la signification de la musique en notre temps. Mais il en a une seconde. La relation entre la musique et la vie n'est pas seulement celle d'un langage avec une autre sorte de langage. C'est aussi la relation, donc l'autre langage, c'est la musique. C'est aussi la relation du monde sonore tout entier avec le monde visuel tout entier. Mais en tant que phénomène visuel et comparé aux manifestations antérieures de la vie, l'existence de l'homme moderne est d'une pauvreté, d'une misère extrême, malgré son inénarrable bariolage qui ne peut satisfaire que le regard le plus superficiel. Qu'on prenne la peine d'y regarder d'un peu plus près et d'analyser l'impression produite par ce jeu de couleurs violemment agitées. N'est-il pas semblable au scintillement et au chatoiement d'innombrables petites pierres et de fragments de pierres empruntés aux civilisations passées ? Donc on va continuer avec Parsifal, une pièce de Richard Wagner que Philippe Kadic appréciait dans un de ses livres. Plusieurs reprises d'ailleurs, il en parle. Non, mais c'est même dans l'exégèse. Il en parle plusieurs fois. Il fait des rapprochements, ça illustre un passage de sa vie. Donc, et là, on va passer dans Parsifal, le passage de la transformation. Et quels sons rendraient à nos oreilles les affirmations suivantes, que la passion vaut mieux que le stoïcisme et que l'hypocrisie, qu'il vaut mieux être honnête même dans le mal, plutôt que de renoncer à soi-même pour obéir à une moralité traditionnelle, que peu importe que l'homme libre soit bon ou méchant, alors que l'homme asservi est la honte de la nature et ne bénéficiera d'aucune consolation céleste ni terrestre. Côté invisible. Enfin, qu'on ne peut être affranchi que par soi-même et que personne ne perçoit la liberté comme un don merveilleux tombé du ciel. Si discordants et si insolites qu'ils paraissent, ce sont là des accents venus de ce monde futur qui aura vraiment besoin de l'art et qui pourra en attendre des satisfactions véritables. C'est le langage de la nature restauré à l'intérieur de l'homme lui-même, l'art. C'est exactement ce que j'ai appelé naguère le sentiment vrai, par opposition au sentiment actuellement régnant. Cependant, il n'y a de satisfaction vraie et de vraie délivrance que pour ce qui est naturel et non pour l'artificiel et le sentiment faux. Tintin. L'artifice, une fois qu'il a pris conscience de lui-même, ne peut plus aspirer qu'au néant. La nature, au contraire, aspire à se laisser transformer par l'amour. L'un souhaite de ne plus être, l'autre désire être différente. Et maintenant, ayant compris ces choses, qu'on fasse défiler devant soi, dans le complet silence de l'âme, les simples motifs de l'art wagnerien. Et qu'on se demande si c'est la nature ou l'artifice qui poursuit ses fins telles que nous venons de les définir. L'homme instable et désespéré trouve la délivrance de son tourment dans l'amour compatissant d'une femme, qui préfère mourir plutôt que de lui être infidèle. C'est le motif du vaisseau fantôme. Alors, j'ai pas cet opéra, il est bien, il est génial, mais je n'ai pas beaucoup de Wagner en fait. Là, en plus, il parle de Tannhauser, je l'avais, mais je l'ai plus. Les maîtres chanteurs, je l'ai écouté, Lohengrin. Ah, je crois qu'on a écouté un morceau de Lohengrin. Siegfried, on va peut-être écouter après. Je sais pas.
Oui, merci. Merci, Johnny. Merci. Wagner. Levons les bras au ciel. Que cette beauté nous pénètre.
Ah, professeur Schmidli.
Oui, écoutez la musique.
le Tristan et Isolde qu'on a pu écouter en début de Bergerus est d'ailleurs par l'orchestre du festival de Bayreuth de 1966. Ouais. Et on a écouté le morceau en T-pop Volonté de savoir et pas Volonté de puissance. Volonté de puissance, j'ai emprunté le tome 2 là. Alors, autre chose à préciser, c'est que là, on est dans l'époque encore, on est 1874, où Wagner a encore une place de choix dans le cœur de Friedrich Nietzsche. Parce que si tu prends le cas Wagner qui l'écrit avec l'Antéchrist, tu crois ?
C'est Jet. Mais non, c'est rien.
Quoi il écrit ? Je sais plus. En tout cas, il l'aime plus, quoi. Et il y a un autre truc, enfin, à la fin de sa vie, il y a eu un moment où Wagner et Nietzsche, c'était terminé. Là, c'était le début encore de leur entretien, de leur rencontre. Donc ça allait.
Ils faisaient tout ça de bien. À quelle heure ? Quand ?
C'était bien, ce qu'il disait sur lui. Mais après, il l'a défoncé.